Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Europa Voice est comme à l'accoutumée cette semaine, comme toutes les autres semaines, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On a deux gros sujets à l'antenne d'Europa Voice cette semaine. On va d'abord parler de la Moldavie et dans la deuxième partie de cet épisode d'Europa Voice, on partira en Italie et on parlera de la première ministre italienne qui resserre un petit peu la vis au niveau de l'immigration. Mais tout ça, c'est dans la deuxième partie. On va parler d'un référendum qui s'est tenu en Moldavie, c'était il y a quelques jours. Un référendum au final avec un résultat ultra serré, pas forcément ce qu'on attendait, on va voir, on va en discuter justement, mais il est important, il est tellement important ce résultat dans cette élection, ce référendum en tout cas en Moldavie, puisqu'on sait la position de la Moldavie aujourd'hui avec l'Ukraine, avec la Russie, c'est un des endroits très stratégiques. Les Moldaves ont dit qu'ils étaient plutôt pour intégrer l'Union Européenne, mais ça a été quand même très 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 serré.
D'abord, je pense, Christophe, c'est important de situer aussi la Moldavie sur la carte,
ouais.
Voilà, géographiquement pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS. La Moldavie, c'est un petit pays qui est coincé au nord avec l'Ukraine et au sud avec la Roumanie, à l'est avec la mer Noire. Donc c'est un pays qui est vraiment au centre de ce que l'Europe peut concentrer de difficultés aujourd'hui, puisqu'il est tiraillé en fait entre des pays qui ont récemment rejoint l'Union européenne. Là, je viens de vous parler de la Roumanie, mais si on va un peu plus au sud, c'est la Bulgarie. Donc, c'est les dernières vagues d'adhésion à l'Union européenne. Et puis, au nord, l'Ukraine, qui fait, bien sûr, objet de conflits et qui, elle aussi, aimerait être sur le fast-track d'une adhésion à l'Union européenne.
Avec une vraie peur, en Moldavie, du grand cousin russe. Il y a une vraie peur dans l'opinion publique du grand cousin russe.
C'est un jeu d'influence, vraiment, c'est blanc ou noir. C'est-à-dire qu'on a des partis, notamment le parti de la présidente qui s'est représentée devant les Moldaves, qui sont pro-européens, qui aimeraient que la Moldavie, à l'instar, encore une fois, des dernières adhésions de 2004, 5, 6, 7, rejoigne l'Union européenne, fasse partie en fait de cette longue liste de pays candidats à la candidature d'une certaine façon. Et puis de l'autre côté, effectivement, la Russie qui ne veut pas voir son influence s'étioler encore un peu plus, puisque de ce côté-là de la carte, en fait, si la Moldavie rejoint aussi l'Union européenne, le seul pays, le seul allié de la Russie, ça reste la Biélorussie.
Ouais.
Et donc, c'est aussi, en termes d'histoire et de progression de l'histoire, assez incroyable le chemin qui est en train d'être construit depuis la chute de l'Union soviétique dans les années 90. Et donc, c'est tout ça, en fait, l'enjeu. C'est plus que symbolique. C'est vraiment quelle est la marche de l'Europe. Et c'est aussi toujours cet éternel débat. Est-ce que si des pays rejoignent l'Union européenne, est-ce que c'est un pas de plus vers une opposition frontale avec la Russie, ou bien ça crée cette zone tampon avec ce que ça présente comme danger, et le cas ukrainien notamment.
Oui, tout à fait. Alors, on va en parler du côté européen, mais tout d'abord, quand j'explique que le résultat est très, 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 très serré, c'est 50,03% de oui contre donc 49,97% de non. Donc, parlons de ce résultat en lui-même, parce que même si c'est une majorité qui va vers le oui, qui tente à verser vers le oui, c'est pas forcément une victoire non plus pour le oui, parce que c'est pas une victoire écrasante. Donc, ça ternit un petit peu peut-être l'image pro-européenne que la chef de l'État voulait donner dans les semaines qui ont précédé ce scrutin. Ce résultat, il est bon pour personne.
Non, il est bon pour personne, et j'ai trouvé des chiffres assez intéressants, notamment chez nos confrères du Grand Continent. Cet écart de voix entre les pros et les anti-européens, c'est 5 votes par bureau de vote en Moldavie.
C'est rien du tout. 2,6 millions d'habitants en Moldavie.
Voilà, donc c'est rien du tout. Ça se joue à 5 votes par bureau de vote en moyenne. Puis, la deuxième chose aussi qui est intéressante, c'est que normalement, ce vote a eu lieu en même temps que l'élection présidentielle. Et donc, toute l'idée de la présidente sortante, Maia Sandu, la présidente moldave, c'était de surfer, d'une certaine façon, sur la dynamique de cette élection présidentielle pour emporter aussi avec elle un soutien d'une adhésion à l'Union européenne. Et comme vous l'avez dit, ça ne s'est pas passé. C'est un résultat plus que mitigé. Et puis, troisième chiffre, troisième donnée que je trouve intéressante, c'est qu'on a un taux de participation assez faible, en fait, pour une élection présidentielle slash référendum, qui est de 50%. Mmh. Donc, si on a 50% de participation avec à peu près 50% de oui, ça veut dire qu'en fait, en Moldavie, à l'heure actuelle, seulement...
25%.
Exactement. Un électeur moldave... J'étais bon en maths à l'époque. Très bon en maths, Christophe. Un électeur moldave sur quatre seulement
a exprimé,
a exprimé un franc oui pour rejoindre l'Union européenne. Et donc, on est loin d'une liesse populaire et d'une adhésion de la population moldave. Et donc, c'est intéressant parce que ça crée une vraie incertitude, non seulement sur le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est finalement...
Elle n'est pas encore réélue.
Elle n'est pas réélue. Mm-hmm. Est-ce que finalement, ça va être plus dur que prévu? Mais ça crée aussi une incertitude sur le destin européen de la Moldavie.
Oui, et ça, on l'a vu, si que vous croyez ou non, au marché financier, la monnaie, le leu, a été au plus bas, de presque historiquement, en tout cas au plus bas depuis des années, quand, par rapport à l'échange, par rapport à l'euro. Donc ça, c'est un signe aussi fort que forcément, ce résultat n'est pas bon et a un impact économique. Qu'est-ce qu'on sait justement du potentiel de la Moldavie au niveau européen? Pourquoi l'Europe s'intéresserait à faire rentrer ou en fait à autoriser, ou quels seraient les bénéfices de l'Union européenne d'avoir la Moldavie? Vous parliez de zone tampon un peu plus tôt.
Alors effectivement, on retourne toujours et à l'histoire et à la géographie. En termes de géographie, encore une fois, la Moldavie, c'est l'étape d'après, d'une certaine façon, de la progression russe à l'ouest, si je schématise un peu. Et donc, c'est important aussi pour l'Union européenne de s'étendre et d'avoir ces zones tampons avec la Russie.
Faut rappeler juste en deux mots qu'au niveau de l'Union européenne, l'Union européenne ne peut pas refuser la demande d'intégration d'un pays qui a justement les termes et les statuts pour pouvoir le faire. Donc en fait, ils sont obligés de, par statut, de s'autoriser en tout cas à regarder les dossiers de demande d'adhésion. C'est pas parce que on est tel ou tel pays. Enfin, il y a vraiment un choix qui est fait sur certains critères économiques et la Moldavie est dans ses critères économiques.
La Moldavie, Christophe, elle est dans ses critères économiques. C'est aussi ce qu'on appelle, au niveau des institutions européennes et des processus européens, une procédure accélérée. La procédure d'adhésion de nouveaux pays à l'Union européenne, c'est régi par l'article 49 du traité de l'Union européenne. Mais ça reste un chemin de croix. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes avant qu'un pays entre effectivement...
Parlez-en à la Macédoine du Nord.
Dans l'Union européenne. Et puis des fois, ça peut aller, j'allais dire, en arrière. La Turquie est un bon exemple.
Oui, tout à fait.
La Turquie était dans le couloir de l'adhésion à l'Union européenne. Et puis, le non-respect de l'état de droit, le non-respect des minorités, etc., fait que la procédure d'étude, parce qu'on n'en est pas non plus à l'adhésion, on est à l'étude du dossier d'adhésion, est pour l'instant stoppée. Donc, ce n'est pas du tout fait. Et puis, mais ça s'inscrit quand même dans l'histoire, parce qu'à l'heure actuelle, on a un peu moins de 10 pays des Balkans et de cette zone d'Europe de l'Est qui sont dans ces procédures, enfin dans ces demandes d'adhésion à être examinées par les pays de l'Union européenne et par les institutions de l'Union européenne pour entrer. C'est pas encore fait, mais c'est aussi, il y a tout un côté aussi symbolique, un signal fort aussi, un peu comme ça l'avait été avec l'Ukraine et cette demande de procédure d'adhésion accélérée. Il y a le côté symbolique. Mais après, il y a aussi le côté institutionnel qui souvent rattrape ce côté symbolique et qui fait que ça va prendre plusieurs années. Et puis, il faut aussi des décisions à la majorité. Donc, évidemment, il y a de plus en plus de pays dans l'Union européenne. On a 27 pays. Donc, ce n'est pas du tout gagné. Mais en tout cas, c'est dans le sens, ça va dans le sens de la marche de l'histoire.
Est-ce qu'il y a eu une réaction officielle de l'Union européenne? On sait que la présidence, elle est en Hongrie en ce moment. Est-ce que Orban a fait une déclaration? Et puis, quelle est la réaction aussi du niveau ukrainien quand on est Volodymyr Zelensky et qu'on est pour l'instant toujours en guerre contre la Russie et qu'on est dans une course en avant vers rassembler plus d'armement et pérenniser l'effort de guerre? Quand on est Volodymyr Zelensky, est-ce qu'on regarde en Moldavie en se disant pourquoi eux, pourquoi pas nous? Enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Ukraine et de la Moldavie là?
Alors pour l'Ukraine, moi je dirais que
si on schématise,
c'est un effet d'entraînement, c'est plutôt bénéfique que l'Union européenne s'intéresse aussi à cette zone. Et encore une fois, la Moldavie est frontalière. Il y a deux pays frontaliers de l'Ukraine, de la Moldavie. Il y a l'Ukraine et la Roumanie. Donc c'est important pour l'Ukraine aussi d'avoir cette espèce de pont, hein, en fait, entre la Roumanie, membre de l'Union européenne, et l'Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est du côté de Moscou, évidemment, on conteste
Ces résultats. On s'y attendait pas moins quand même.
Je pense que ça conteste, mais il y a quand même plutôt un côté, j'allais dire, réjoui de voir que ça n'a pas été un oui massif. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un parti socialiste,
oui,
en Moldavie, qui est pro-russe. Et l'autre chose aussi qui est très intéressante, et ça, c'est il y a plusieurs articles qui sont parus qui ont parlé d'un effet Gorbatchev, donc du nom de l'ancien leader russe au moment de la perestroïka et de la libéralisation de la Russie au moment de la chute du mur.
À la fin des années 80 en Russie.
C'est qu'en fait, la plupart des votants qui ont voté pour ce chemin européen, ce sont des votants qui résident en dehors de Moldavie.
Oui.
Et donc, c'est aussi une vraie opposition entre le progressisme et le pro-européanisme des Moldaves résidant à l'étranger versus les Moldaves qui vivent en Moldavie, voisins de la Russie, et qui, eux, ont plutôt un penchant pro-russe. Et ça a aussi été dénoncé par l'opposition pro-russe moldave, qu'en fait, il y a une espèce de rideau de fumée. De la même manière qu'il y avait eu à l'époque de Gorbatchev, où il y a cette espèce d'ingérence extérieure, cette espèce de push de Moldave complètement occidentalisée, qui ne reflète pas en fait la réalité du pays et les aspirations des Moldaves encore sur place. Et ça va être un élément aussi important, parce que si c'est effectivement le cas, on n'a pas encore les résultats définitifs, mais si c'est effectivement le cas, ça présage aussi de mouvements sociaux de masse à l'intérieur de Moldavie.
Comme on avait pu le voir en Géorgie, par exemple.
Comme on avait exactement pu le voir en Géorgie. Et puis ça va surtout mettre un peu plus d'eau au moulin de l'ingérence européenne supposée dans des élections moldaves, de la même manière que les pays européens n'hésitent pas à critiquer l'ingérence russe dans les élections européennes. Donc, c'est un moment qui est vraiment charnière pour la Moldavie, pour la Russie, mais aussi pour le destin de l'Union européenne, de savoir si finalement l'idéal européen arrive à faire assez d'émules pour qu'il y ait des oui massifs pour rejoindre l'Union européenne, ou pour l'instant on en est encore à ces résultats qui ne disent rien ni dans un sens ni de l'autre, si ce n'est une certaine division de l'opinion moldave en l'occurrence.
Absolument, hein. Vous vous rendez compte que presque à 150 épisodes d'Europa Voice, et on arrive vraiment encore à éclaircir pas mal de méandres de la politique européenne. Allez, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie d'Europa Voice.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
Deuxième partie d'Europa Voice cette semaine, toujours avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, on va parler d'Italie, mais plus largement d'immigration européenne. Ces derniers jours, l'Italie a déclaré restreindre, ou en tout cas regarder de très près la façon de restreindre l'accès à son territoire, à son île, à Lampedusa par exemple, pour les migrants. Alors expliquez-nous un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en Italie. Parce que ça va dans la ligne de ce que Meloni avait annoncé au tout début quand elle est arrivée au pouvoir. C'est en train de se passer.
Alors, premier élément, Christophe, qui est important de rappeler pour les auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, c'est que le manque d'accord et le manque de politique cohérente sur les questions migratoires en Europe font que certains pays se retrouvent plus en difficulté que d'autres. Et c'est le cas notamment
l'Italie.
De l'Italie, où les premiers migrants du continent africain, Afrique du Nord et même Libye, débarquent d'abord à Lampedusa. Et l'Europe n'ayant pas de réponse coordonnée, l'Italie a le ressenti d'être complètement abandonnée, de devoir faire seule face à ces questions migratoires.
Il faut noter, c'est tous ceux qui débarquent à Lampedusa et tous ceux qui n'y arrivent pas non plus, parce qu'il y a tellement qui meurent en chemin, et l'Italie, d'une certaine façon, doit prendre la responsabilité de ce corridor. Et l'Italie dit, pourquoi que nous, en fait, hein. C'est, si on veut simplifier, c'est ce qui se passe.
Oui, en plus, c'est important, je pense le mentionner, c'est ces drames humains qui arrivent très régulièrement, mais c'est aussi le fait que l'Italie est pointée du doigt dans la mauvaise gestion justement de ces drames. Et donc la vraie réponse à apporter serait encore une fois une approche coordonnée, mais ça l'est sur les questions migratoires, ça pourrait l'être sur les questions d'affaires étrangères, etc. Et donc une des promesses de campagne de Meloni, c'était de restreindre effectivement, en tout cas d'encadrer l'immigration avant, j'allais dire, que les migrants arrivent sur le territoire italien, ou une fois qu'ils sont sur le territoire italien, de pouvoir être, que leur dossier puisse être traité ailleurs qu'en Italie. Et donc Meloni avait conclu avec l'Albanie la mise en place de centres de traitement des dossiers de ces migrants afin qu'ils puissent être gérés ailleurs qu'en Italie. Et donc ça créerait aussi quelque chose de dissuasif pour les migrants. Et ça, c'est tout le projet de Meloni, projet qui a été retoqué par les juges italiens,
ouais.
Mais qui a été de nouveau, j'allais dire, contourné par Meloni par décret, et qui se trouve qu'on est maintenant dans une situation où on va sûrement aller aux instances européennes, puisque la réponse des juges italiens, c'était de dire que le droit européen prévalait sur le droit italien. Mais Meloni ne semble pas l'entendre comme ça. Mmh. Et donc, on se dirige aussi vers un casse-tête juridique entre l'Italie et certainement la Cour de justice des communautés européennes.
Ce qui est intéressant avec l'Italie, c'est qu'on peut débattre de ça pendant des heures, mais l'Italie, ça a été un pays, ça l'est encore, mais ça a été un pays d'immigration. Il y a énormément d'Italiens aux États-Unis, enfin d'émigration, je veux dire, on le voit chez nous, hein, dans les rues en Australie, Melbourne, c'est peut-être la troisième plus grande ville italienne au monde. Enfin, c'est un pays qui a une histoire d'émigration. Mais aujourd'hui, c'est un pays qui, du fait de ce qui se passe aux portes européennes, se referme un petit peu sur lui-même, ou en tout cas a cette tendance de dire « nous, on a assez donné, aidez-nous ». Est-ce que le bras de fer avec l'Europe, il est là, il est sûr. Le fait que Meloni durcisse un peu ce mouvement, c'est aussi pour faire plier l'Europe et avoir plus d'aide.
Déjà, il faut aussi le préciser, hein, c'est un gouvernement de droite et d'extrême droite, le gouvernement en Italie actuellement. Donc, les positions de Meloni et de ses ministres sur les questions migratoires, elles sont peut-être contestables, mais elles ne sont pas surprenantes si on analyse d'où elles viennent. Ça, c'est le premier élément. Puis encore, le deuxième élément, et pour rejoindre ce que je disais en préambule, c'est que les réponses qui sont apportées par l'Italie, par Meloni, c'est aussi des réponses à l'incapacité d'avoir et de constituer une réponse européenne à ces problèmes migratoires. Et le fait...
Mais est-ce qu'elle n'est pas en train de jouer un levier, là, justement, de mettre un peu un coup de pression à l'Europe en disant « attention, nous, on va faire ça, ou on vous attaque à la Cour de justice, on vous emmène au plus haut point de vos propres institutions pour pouvoir une force de levier de dire « bon, bah, aidez-nous, et peut-être on se calmera un peu ».
Oui, mais malheureusement, il y a l'élément exogène qui est en dehors des mains de l'Europe, c'est les vagues d'immigration qui vont sûrement continuer et qui même augmenter avec les années à venir, les conflits dans cette région du monde, les changements climatiques, etc. Non, je crois que c'est vraiment une réponse plus qu'électorale, c'est une réponse que Meloni a trouvée. Et puis, ça questionne aussi la capacité d'États européens de nouer des partenariats et des accords avec d'autres États en dehors de l'Union européenne en contournant ces règles européennes. Pour moi, si vous voulez, Christophe, ce que fait l'Italie là, c'est à mettre en miroir de ce qu'a fait l'Allemagne après l'attentat terroriste qui a eu lieu il y a un mois de cela avec la fermeture temporaire des accords de Schengen. C'est tester les limites du projet européen. Le problème, c'est qu'au début, il y a une petite brèche. D'ailleurs, c'est prévu par les textes. Schengen, on peut suspendre temporairement. Qu'est-ce qui arrive quand on prolonge? Si ça va être prolongé de 12 mois à 24 mois. Et l'Italie, pour moi, c'est exactement la même chose. Tout ça, ce sont des tests, mais des tests qui sont justifiés politiquement autant en Allemagne qu'en Italie. Encore une fois, ce n'est pas surprenant avec la philosophie politique et le gouvernement en place en Italie. La vraie question, c'est à partir de quand la brèche sera trop grande en Europe avec ses manières de tester les limites des institutions, des procédures européennes, et à quel moment l'Europe va malheureusement commencer à montrer des signes de fissure et de faiblesse. Et c'est pour moi, c'est ça le plus grand danger. Le fait qu'il se centre en Albanie, finalement, il y a un côté anecdotique, enfin, il y a un côté très pratique de Meloni. Mais voilà, c'est à mettre en miroir de tout ce qui est en train de se passer en Europe, qui vont un peu à l'encontre de la lettre et de l'esprit de la construction européenne. Et pour moi, c'est ça vraiment le défi de l'Union européenne, c'est de gérer et de faire face à ces initiatives prises par les États avant que ce ne soit trop tard par rapport à la construction du projet européen. Et surtout, en parallèle, où on fait le lien avec la première partie sur la Moldavie, où en parallèle, on est en train d'augmenter encore le groupe et le contingent de pays européens. Et c'est toujours ce même débat, Christophe, approfondissement versus élargissement. Est-ce qu'on ne va pas trop vite alors qu'on a encore des choses à approfondir, notamment les questions migratoires au niveau européen?
Absolument. Affaire à suivre en tout cas, Nathanaël. Merci.
Merci beaucoup, Christophe.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.